Donc c'est une journée qui s'inscrit dans le cadre du projet ANR Astré, donc, qui porte sur l'analyse, la synthèse, le traitement d'œuvres temps réel. Enfin, Astré, c'est l'acronyme, c'est analyse, synthèse, traitement temps réel. Donc on s'intéresse à créer des outils qui permettent une plus grande pérennité dans les œuvres de musique qui utilisent l'électronique. Alors, c'est le... Astré, c'est un consortium qui regroupe différentes structures, donc, qui est dirigé par, piloté par l'IRCAM et qui inclut le GRAM, le Centre national de création musicale à Lyon, l'École des mines de Paris, le CIREC. Et donc dans ce consortium, il y a plusieurs chantiers en cours. Donc d'une part, le développement d'un outil, le développement sur l'outil qui s'appelle FAUST, qui est un outil de, développé par le GRAM, dont évidemment l'arrêt parlera tout à l'heure en particulier, qui est un outil pour la, la synthèse, enfin pour la construction d'outils de traitement du son. Alors, on s'intéresse donc à la fois à créer des outils permettant d'avoir des offres plus pérennes que ce qu'on pouvait actuellement sur le marché. On s'intéresse aussi à documenter les pièces, c'est-à-dire pour voir toutes les pièces qui ont été faites dans le passé, comment elles fonctionnent, et pour pouvoir, si possible, les implémenter dans les nouveaux outils, donc les outils FAUST de GRAM. Alors, il faut savoir que depuis plus de 10 ans, c'est-à-dire à peu près en 97, c'est la sortie du programme Max MSP qui permet de faire du traitement en temps réel sur des ordinateurs du commerce, des ordinateurs personnels. Ça a donné la possibilité donc, de faire du traitement de la synthèse en temps réel sur des ordinateurs. Auparavant, tout ce qui était synthèse fonctionnait surtout en temps différé avec des programmes du type Musique N de Max Matthews, 600 ou autre. À part quelques systèmes spécialisés, les grosses stations numériques qu'on a trouvées dans les années, à la fin des années 70, comme la 4X de Birkam, le système BIPIC du GRM, dans des centres, dans des grands centres. Alors, à travers l'évolution fulgurante des outils, donc depuis la fin des années 70, sur ces grosses stations, et puis après les outils comme Max MSP, on constate actuellement un engouement de plus en plus grand pour ces outils, c'est-à-dire que maintenant le Max MSP est enseigné dans de nombreuses universités. C'est un des outils en vogue pour les gens qui font du temps réel. Mais un outil qui évolue très vite et donc une pérennité des outils qui laisse à désirer. C'est-à-dire qu'un programme qu'on a fait pour une pièce donnée il y a 5 ans, maintenant, on ne sait plus la faire rejouer ça, la plupart du temps. Donc il y a un réel problème de ce côté-là qu'on essaye de, sur lequel on essaye de réfléchir et de trouver des solutions. Donc les particuliers, donc il y a deux problèmes qui se posent. Assurer la pérennité des œuvres, et puis d'autre part, comment transmettre les compétences, c'est-à-dire que les savoir-faire qui ont été faits sur une pièce, comment les documenter pour que les différents musiciens et compositeurs ne réinventent pas à chaque fois la roue. C'est un peu les deux points qui nous intéressent, pérenniser les œuvres et puis documenter le savoir-faire. Voilà. Donc, je vais laisser la place à Max Brucker, qui va nous présenter une pièce sur laquelle il a travaillé, Martin Montalon. Et donc, cette journée-là, s'intéresse par rapport au projet Astré, surtout à l'étude des œuvres des œuvres électroniques, c'est-à-dire comment les documenter, comment faire leur portage, etc. Voilà. Donc Max Brucker, pour commencer cette journée d'étude.
Bonjour à tout le monde. Je vais vous parler, enfin, je vais faire, rapidement expliquer ce que je fais, d'où je viens et pourquoi je vais vous parler d'une pièce qui s'appelle Tuniming de Martin Montalon et dans quel contexte elle a été créée. Donc, moi je suis réalisateur en informatique musicale ou assistant musical selon les différentes terminologies ou au GRAM. Et j'ai assisté Martin Montalon pour la réalisation de sa pièce Tuniming qui s'est créée dans le cadre d'un projet multimédia avec l'ensemble Musique Fabrique, le vidéaste Paolo Pacchini et deux autres compositeurs, Raphaël Ciondo et Michael Jarel, pour un concert vidéo et musique qui s'appelle Chute. Et dans ce contexte-là, Martin était le troisième compositeur invité par Paolo Pacchini à écrire une pièce pour l'ensemble Musique Fabrique. Et sur cette pièce, il a désiré faire énormément de temps réel et pouvoir traiter séparément tous les instruments d'une manière dynamique. Alors, c'est pas les technologies mises en œuvre pour cette pièce ne sont pas d'une très grande complexité, puisque c'est des choses qui existent déjà, pour donner un peu le contexte original. Martin est venu avec des œuvres qu'il avait déjà créées, toute la série des traces qui sont des œuvres pour solistes et traitement temps réel. Et on est parti des pièces traces comme pour réaliser ce patch. Et en fait, c'est en faisant ça que on a été confronté justement à la problème de la pérennité des œuvres, enfin pas tant le problème de la pérennité, mais plutôt le problème de la transmission. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, d'un point de vue de mon background en tant qu'assistant, j'ai plutôt une formation, enfin j'ai fait des classes du conservatoire et où j'ai appris sommairement Max, mais après je suis complètement autodidacte sur tout le traitement du signal. Donc j'ai appris le midi à l'école et puis le reste je l'ai appris un peu sur le tas. Et j'ai une formation sur le tas aussi d'ingénieur du son, puisque j'ai beaucoup gagné ma vie en tant qu'ingénieur du son. Donc j'ai pas du tout un background de chercheur. Donc les préoccupations, je dirais, de transmission n'étaient pas vraiment... enfin, j'y étais pas confronté. Et à partir du moment où j'ai commencé, même en travaillant au gramme, j'étais pas nécessairement confronté à ça, sauf quand il fallait reprendre des pièces. C'est-à-dire que comme je suis au gramme, je suis assistant musical et je suis surtout dans une logique de production. Quand on est dans des logiques de production, je ne sais pas si, enfin peut-être que Serge en parlera mieux que moi, mais je crois qu'on a, j'ai pas beaucoup de temps pour faire de la recherche et documenter ce que je fais. Je fais une documentation qui est plus ou moins sommaire et qui est souvent liée à une pression qui est celle des éditeurs. Alors pour ne pas en citer un, celui de Martin, Biodo est très pressant quant à la documentation des pièces. Donc il faut pouvoir donner très vite une documentation claire. Alors la question de la documentation, elle est assez complexe parce que il faut pouvoir fournir le patch. Dans le cadre d'une reprise, il faut pouvoir écrire quelque chose pour qu'un ingénieur du son qui ne soit pas spécialiste en Max MSP puisse reprendre d'une certaine manière cette œuvre. Donc il faut complètement bétonner son patch pour que personne n'ait à y mettre les doigts ou à changer des choses d'une manière ou d'une autre, sauf quelqu'un de compétent à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'un ingénieur du son doit pouvoir poser des micros, une table de mixage, un ordinateur, câbler les choses comme il faut et que la pièce fonctionne. Après, dans un second temps, il y a une seconde couche de documentation à laquelle je suis en train de m'attaquer, parce que du coup, je me rends compte que c'est les choses qui me manquent. C'est la documentation qui est liée à d'autres rimes qui, eux, vont reprendre les œuvres. Et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais au début. Quand on a commencé le projet, travailler sur les patch traces de Martin, ça a été très complexe, puisque historiquement, je ne sais pas combien d'assistants ont bossé avec lui sur les traces, mais on en a utilisé 4 ou 5. On a utilisé trace 2 de Tom May, ça avait fait la réalisation. Trace 4, je ne sais plus qui c'est, je me demande si c'est pas Robin Meyer qui l'a fait, mais je ne suis pas certain. Trace 6 et trace 7 d'Olivier Pasquier avait fait la réalisation. Donc en fait, il faut à chaque fois qu'on reprend des pièces, rentrer dans la logique du rime qu'il a faite. Et ça, c'est tordu. C'est très très tordu. S'il n'a pas laissé une documentation, on peut y passer des jours. Donc très concrètement, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, j'ai passé plus de temps au téléphone avec ceux qui avaient repris l'œuvre en concert plusieurs fois pour vraiment démonter les choses. Et alors c'est là que les notes de Martin ont été très importantes, parce que Martin Matalone est un compositeur qui a quand même un certain passif dans le traitement temps réel dans les pièces interactives. Et à mesure que ça a avancé, toutes ces partitions sont annotées. Donc à chaque déclenchement d'effet est indiqué quel type d'effet est en marche. Il me suffit donc au bout d'un moment d'écouter ce qui se passe à un enregistrement, d'observer sa partition pour essayer d'arriver à me figurer assez facilement quels effets sont mis en œuvre. À part ceux, et puis les connaisseurs comprendront pourquoi, dans ceux de trace 7 qu'a fait Olivier, où là, pour moi, c'est presque mystique ce qui s'y passe, puisqu'il n'avait qu'un clic, il peut se passer 7 minutes de son sans savoir quels sont les processus mis en œuvre. Et je crois qu'il est le seul à pouvoir démonter ces patchs. Donc voilà, donc c'est tout ça pour arriver à la conclusion qu'en fait on a tous nos propres logiques et qu'elles sont plus ou moins complexes et plus ou moins personnelles. Donc le métier de réalisateur, c'est vraiment un métier d'interprétation. Et donc la question se pose, comment est-ce que je documente ce que je viens de faire? Alors il y a la technique la plus classique consiste à faire un synoptique de patch, c'est-à-dire une entrée d'un micro rentre dans tel effet, puis passe dans telle série d'effets, puis ressort. Alors ça, c'est valable que quand le patch est statique. À partir du moment où on a un programme dynamique, où on a la possibilité de pouvoir combiner les effets entre eux, de pouvoir faire des automatisations un peu dans tous les sens, c'est proprement impossible de se figurer de ce qui se représente. Il faut pouvoir, dans ce cas-là, décrire état par état le programme, ce qui revient à réécrire la partition électronique, en fait. Donc il faudrait très simplement, à la limite, avoir un conducteur pour l'instrumental et un conducteur pour l'électronique, avec à chaque coup de pédale, à chaque cue, avoir en dessous un descriptif avec les automatisations, avec toutes les lignes qui sont écrites. Et en fonction de la complexité du patch, on peut se retrouver avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de lignes. Je pense notamment à Trace 2 pour Core qu'avait fait Tom Mace. Les connaisseurs savent à quoi peut ressembler une cue list. À un moment donné, pour pouvoir lire une cue list, quand on a plus de 600 lignes pour un cue, et qu'on en a 10 à démandibuler en une demi-journée, c'est pas possible. C'est proprement infaisable. C'est un truc. Moi, ça m'a rendu fou, en tout cas. J'abdique. Donc la complexité, c'était la mise en œuvre de ça. Alors, après, il y a des choses qui sont plus complexes, un peu plus tordues, c'est quand on invente des effets. Parce que il y a des effets qu'on connaît très bien. Décrire une reverb, on n'a pas besoin de décrire comment fonctionne une reverb, on sait comment ça marche. Par contre, et c'est ce que je vais vous montrer pour le patch de Martin, on a mis en place un effet qu'on a appelé Shuffle Delays. Et Shuffle Delays, c'est un effet qui est en fait une idée de Tom Mace qu'on a poussé beaucoup plus loin, qui consiste à utiliser un suiveur d'enveloppe, à analyser les dynamiques d'un instrument. Quand cet instrument atteint une certaine dynamique, on va générer un grain, c'est-à-dire que ce même son va être divisé en deux, envoyé dans le suiveur d'enveloppe et dans un délai et dans un modulateur d'amplitude. Et quand on passe le seuil, le modulateur d'amplitude va générer un grain, une petite enveloppe, va attraper une portion du signal et le projeter dans un délai. Mais ce délai lui-même, le temps des délais est variable en fonction de certains modèles qui eux-mêmes vont se mettre en mouvement quand on détecte le grain. Je vais vous montrer j'ai fait un espèce de petit plan parce que c'est peut-être beaucoup plus, je pense, beaucoup plus explicite. Donc vous voyez j'ai représenté sur deux étages. Alors ça, je l'ai associé au patch. Et dans l'effet, dans Max, on met une petite image JPEG. Quand le réalisateur veut savoir ce qui s'y passe, on clique sur « How does it work ?» et puis on a cette petite image qui s'ouvre. Donc le signal, vous voyez ma jolie forme d'onde là. À partir du moment où je passe un pic, où j'arrive sur un pic et que je passe un threshold, j'envoie un signal, un bet band, qui génère un grain. Alors, le problème, c'est que ce bet grain, il est évidemment consécutif au pic. Qu'est-ce qui se passe si le compositeur me dit « Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le pic qui va se résonner dans des délais. » Dans ce cas-là, il faut retarder son signal. Donc, on retarde ce signal. À l'époque, quand j'avais fait ce patch, j'avais séparé le générateur d'enveloppe, le suiveur d'enveloppe et le générateur de grains en un modèle, et j'avais mis d'un autre côté un système de multi-tap délai, c'est-à-dire un délai par haut-parleur avec des réglages qui bougent. Maintenant, j'ai complètement fait évoluer ce patch, donc ce que je vais vous montrer là, c'est la version originale, mais cette espèce d'effet-là, je l'ai retravaillé à plusieurs reprises, et c'est vraiment devenu un effet en soi. Donc voilà, vous avez l'exemple assez archaïque, je dirais, d'une représentation graphique de ce que fabrique cet effet. C'est relativement simple, ça pourrait se sophistiquer beaucoup plus, mais c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de faire quelque chose à partir de ça. Et puis après, se pose l'autre question de la norme. C'est-à-dire que faire un dessin, c'est possible. Là, j'ai utilisé Max. Je pense qu'on pourrait utiliser n'importe quel autre logiciel. On pourrait utiliser très bien C-Sound pour faire ce genre de choses-là. Ça ne posera aucun problème. Donc voilà, c'est une espèce de petite chose assez simple pour ça. Après, pour comprendre le reste du programme, le reste des effets sont des effets relativement simples. Suiveur d'enveloppe, pré-délai, modulation en nano, filtre spectral, filtre tout simple, date filtre. Et après, les polyhermos, les polydélais, résonateurs, mungeurs, reverb, et puis un petit sphère. Les polyhermos, polydélais sont simplement des harmonizers et délais polyphoniques. Enfin, on a plusieurs instances de la même chose. Là aussi, on avait fait des petites particularités, mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, je vais vous faire écouter à quoi ça ressemble. Grâce à Jack. Alors, allumer l'audio de Max. Donc, j'envoie depuis Logic des prises de son qu'on a fait des instrumentistes. Alors vous m'excuserez, il manque toute la partie de la bande, donc c'est très sommaire ce que vous allez entendre. C'est uniquement la piste du violoncelle et et de la contrebasse qui va être envoyée dans le patch Max, puisque la bande dure presque 25 minutes, 20-25 minutes, et que j'ai pas pris le temps de vous reposer toutes les 6 fois 6 pistes pour ça. Donc vous avez juste le temps réel et un petit effet, un petit enregistrement. Du violoncelle passe dans cet effet de délai. L'idée c'était de n'avoir que les accents qui passaient dans l'effet de délai, et donc ça nécessite d'ailleurs en mise en œuvre un petit peu de temps de travail avec le violoncelliste, ce qui veut dire que le violoncelliste, enfin l'instrumentiste, doit respecter absolument toutes ces dynamiques, parce qu'on ne fait pas ça en temps réel. C'est une technique assez simple, hein. Règle un seuil et puis à lui de respecter ses nuances. Et moi je ne crois pas au suivi, après je ne sais pas, je ne suis peut-être pas très au point, mais je ne crois pas au suivi de dynamique et d'adapter ça en temps réel. Je pense que c'est trop complexe pour juste... Parce qu'on a, voilà, vous avez vu, on a 5 mesures où ça arrive. Cet effet arrive, puis c'est repris plusieurs fois, mais ce n'est pas un effet qui est systématique et qui est redondant dans le... Vous avez entendu aussi qu'il y avait des petites transpositions qui réagissaient de la même façon. Donc c'est exactement la même technique, sauf qu'on envoie ça dans un transpositeur polyphonique. Et l'effet de la fin, l'effet de chute, c'est la partie principale de la pièce qui s'appelle tunneling et qui est une idée de Martin. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, mais c'est la technique très simple d'un transpositeur avec délai et feedback. On transpose de quelques cents, on délaye un petit peu cette transposition et on réinjecte cette transposition en elle-même. Donc si on transpose de moins 10 cents, on va avoir quelque chose qui va faire des escaliers vers le bas. Je ne sais pas si ça s'appelle vraiment tunneling comme effet ou si c'est un nom particulier.
L'infernal machine.
L'infernal machine. Oui, oui, c'est ça. C'est apparemment l'infernal machine. J'ai pas l'âge d'avoir connu ça bien. Moi.
Je l'ai connu. T'en as une dans le studio.
Disons que j'ai joué non, avec... J'ai joué, elle commençait à mourir. Donc, j'étais en âge de comprendre comment ça marchait. Voilà. Donc c'est assez simple. Moi, c'est le là pour le moment, parce que Martin m'a demandé Récemment, il a repris la pièce avec un autre assistant musical qui lui a compris les effets, mais n'a pas compris comment arrêter toutes les automatisations, puisque ce patch a cette autre particularité qu'à partir du moment où on l'a mis en marche, il ne s'arrête pas. Donc, à part moi qui sais le faire, c'est qu'on fait go au début et on arrête 20 minutes plus tard. Et ça, c'est, si on veut récupérer juste une portion en plein milieu de la pièce, c'est très compliqué. Sauf quand on a la version, c'est pas la version du concert, mais la version de travail que j'ai moi. Donc, une autre des particularités, c'est qu'il faut que je réalise une documentation complète de ça et expliquer qu'est-ce qu'il faut désactiver, etc. Donc, c'est pour ça que je parlais de différentes couches. Donc, il y a la documentation pour le tout venant. Le tout venant, j'entends pour l'éditeur, ce qui va accompagner la partition, donc la bande, le patch avec les traitements, les choses comme ça. Et la documentation pour les rimes qui vont reprendre, parce que ça ne, d'expérience, maintenant je sais que tous les compositeurs qui ont bossé avec des rimes, effectivement, ils ne réinventent pas nécessairement toujours la roue, ils reviennent avec l'idée, avec l'envie de reprendre tel effet qu'ils ont utilisé dans la pièce précédente, etc. Et on se retrouve nécessairement à devoir réutiliser ce qui a déjà été fait. Donc nous voilà donc à nouveau dans cette problématique de description. Après, les outils pour les décrire, à mon niveau, c'est vraiment du texte, des dessins, des choses assez simples, un descriptif assez simple. Mais c'est vrai que les processus, après, sont assez... c'est pas tout d'avoir dit qu'est-ce qui constitue le patch. Maintenant, il faut décrire comment la pièce marche. Et là, je dirais que c'est même une troisième couche. C'est ce dont je parlais en parlant de partition électronique. Parce que dire que le patch est constitué de 25 effets qui se tuyotent de telle façon, c'est pas tout. Il faut dire comment on les automatise. Et là, ça, c'est un travail de description qui est monumental, je crois, auquel je ne me suis jamais confronté, à vrai dire, à un moment. Parce que chacune des automatisations est un petit bout de code qu'on ajoute pieu par pieu. Une des choses qu'on a fait à l'époque et qui était valable sous Max 4, et qui moi m'a beaucoup aidé à débugger quand je faisais des erreurs, c'est de faire les patchs en fichier texte, de mettre les patchs en fichier texte, ce qui veut dire que ça me permet de les observer avec un éditeur de texte. Alors je sais pas si tout le monde fait pareil, je crois que c'est un classique pour les rimes, mais c'est une façon de ne pas avoir un format verrouillé. Quand on l'ouvre, c'est assez... c'est du langage spécifique à Max, mais ça nous permet d'être à peu près lisible. Et une autre contrainte consiste à nommer les choses tout le temps de la même façon. Parce que ça aussi, c'est une chose qui peut rendre un rime fou, c'est d'avoir des noms qui ne... Dans Max, c'est particulier avec le send and receive, d'avoir un send la tête à Toto, un receive la tête à Toto, alors que c'est censé piloter le volume d'un harmonizer. C'est un truc... Il n'y a pas de cohérence. Donc voilà, pour la partie normée, c'est, il faut pouvoir tout normer d'une certaine façon. Donc ça soulève encore la question de comment on norme les choses. Il faudrait pouvoir idéalement se mettre d'accord sur un protocole pour nommer les choses. Et comme on le sait, quand on est dans des logiques de production, qu'on finit une production, qu'elle part en tournée et qu'on en reprend une juste derrière, on norme pas trop les choses et souvent on le fait les choses dans l'urgence. C'est-à-dire qu'on nomme les choses AZERTY. C'est souvent ce qui m'arrive, moi. Les premières touches du clavier sont les premières. Voilà. Oui, la partie normée, ça me questionne beaucoup. Je ne sais pas si c'est... alors, on verra dans le cours de la journée si vous avez des propositions de pistes. Tu sais qu'il y a un travail dessus pour la description avec Faust. Mais pour... il y a toute cette partie qui est spécifique à Max et qui va être spécifique à chaque logiciel, je pense qu'idéalement, même si on arrivait à décrire de façon, tout, de façon schématique tous les processus des faits, il y a l'environnement, qui, l'environnement aussi qui lui a sa propre particularité. Qui, est-ce que c'est utopique de penser qu'on arrivera un jour à avoir quelque chose de transmissible? Je pense par exemple, quand tu parlais de l'Infernal Machine, on pourrait tout à fait reproduire l'Infernal Machine, mais il y a beaucoup de gens, enfin, c'était particulier avec le hardware, c'est que on a une machine qui fait quelque chose, et puis en plus elle a une âme. Et cette âme, on la reproduira jamais. C'est un espèce de truc un peu bizarre. C'est comme, enfin, les gens qui font de la synthèse me diront, je fais jamais de la synthèse avec Max. Ça sonne pas du tout comme on peut faire de la synthèse avec des synthétiseurs. Pourquoi ? On peut décrire énormément de choses, mais il y a quelque chose de, j'ai l'impression, de presque utopique qui nous dépasse. Alors, peut-être que c'est mon goût des instruments, mais peut-être que nous chercheurs ont des pistes à me donner. Et est-ce que tout décrire, est-ce que ça apportera des solutions à la transmission des œuvres ? Je ne suis pas certain. Je vais vous montrer une autre chose qu'on avait fait, qu'on a appelé. Alors, c'est très intéressant parce que quand on travaille sur des œuvres, souvent, le point de départ, moi ce que j'aime bien, c'est travailler sur la poétique d'une œuvre avec un compositeur. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas avec des recettes toutes cuites en me disant c'est tel effet avec tel effet avec tel effet. Parce que ça, c'est vrai dans un contexte, c'est pas vrai dans un autre. C'est vrai quand on l'a fait sur la harpe, sur le piano, ça marche pas du tout pareil. Je préfère travailler une espèce de terminologie poétique. C'est-à-dire qu'avec Martin, c'était assez rigolo. Lui, il a des mots pour ça. Alors, il y a des mots récurrents. Quand on me dit nuage, pulvérisation, ça, je comprends. C'est assez récurrent, ça. Mais les mots comme électrification, pour lui, il entendait, par exemple, à un moment donné, l'électrification de la percussion. Alors ça, ça m'a pris un petit peu du temps pour comprendre ce qu'il entendait. Ça, c'est spécifique au travail de Rim, c'est l'interprétation de la poésie intérieure du compositeur. Et du coup, on a mis en place un truc tout simple qui consiste en un poly-ring mode. J'ai appelé ça poly-ring mode, mais en fait, c'est très simplement deux modulateurs en anneaux qui aussi, avec une technique de portamento, c'est-à-dire qu'on a un système aléatoire qui va piocher des fréquences à l'intérieur d'un ambitus donné, c'est-à-dire on donne un minimum, un seuil minimum, un seuil maximum, et il va piocher aléatoirement des fréquences là-dedans et mettre un certain temps pour y arriver. Et une fois qu'il a atteint ce point, il en tire une autre. Donc on n'arrête pas d'avoir quelque chose qui module comme ça, qui oscille de façon régulière. Et ce qui était assez marrant à faire, c'est d'utiliser cette technique d'électrification et d'utiliser la bande de fréquence, enfin l'amplitude des deux fréquences, la caler en fonction de l'instrument qu'on voulait traiter. Parce que le ring mode réagit mieux dans certaines fréquences que dans d'autres. Donc on a créé comme ça des fréquences assez simples. Donc on a créé des modèles très simple, pareil pour les harmonizers et pour les délais, on crée toujours des modèles et on utilise un modèle spécifique en fonction de l'instrument qu'on veut utiliser. On n'applique pas un effet plein bonnet sur tous les instruments. Et ça, on l'a utilisé sur la percussion et on a doublé ça avec un bed délai, enfin un multi-tap délai aussi, qui lui est fixe. Mais très court, ce qui nous permet d'avoir des choses assez particulières. Et c'est cet effet qu'on a inventé entre guillemets sur cette œuvre que Martin a réutilisé dans une nouvelle œuvre. Et je sais que le RIM qui l'a accompagné m'a appelé pour me demander c'est quoi l'électrification. Donc il a fallu que je lui décrive les choses aussi simplement que ça. C'est très simple, mais voilà une autre chose. Le compositeur partant avec sa arrive avec une idée poétique, on trouve des solutions techniques et on les met en œuvre, il repart, mais avec l'idée poétique, puisque lui, c'est pas son travail de comprendre la technologie mise en œuvre. Et le prochain RIM se retrouve toujours avec la même problématique, d'interprétation. Alors, je vais vous faire écouter ce que ça donne. Alors... 261. Alors, il faut que je mute parce que je vais vous faire écouter uniquement. Clarinette et percussion. C'est assez simple, mais c'est vrai qu'en l'entendant, je pense que c'est pas très évident. En plus, c'est quelque chose qui est très subtil, qui est dans la pièce et joué pianissimo. Et voilà un exemple typique d'un effet que si on ne le renseigne pas, on s'en rend pas compte en fait. Alors que par habitude, on est capable de repérer un manager très facilement. Enfin, il y a des effets classiques et puis les librairies sont souvent les mêmes. Je dirais même qu'il y a comme une espèce de, dans la production, il y a comme une espèce de mode des effets qu'on entend. À un moment donné, on entend une chose. Enfin, j'ai peut-être pas assez de métier là-dessus, mais je crois qu'il y a vraiment des périodes depuis les 10 dernières années sur la production en temps réel où il y a vraiment des certains effets qu'on entend très régulièrement. Je pense que particulièrement la granulation, c'est des choses qu'on entend beaucoup, 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 beaucoup en ce moment. Et puis on la repère à des kilomètres. Moi j'adore, mais il y a plein de techniques. Donc c'est assez facile. C'est pour ça que je prenais l'exemple de la pulvérisation. Moi on me demande beaucoup pulvériser, nuages, fragmenter. Donc ça c'est typiquement la granulation qui va nous amener ça. Et ça, pour le coup, je dirais presque que ça va devenir un classique des effets du traitement audio numérique. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. On aura certainement, dans les 20 prochaines années, on aura plein de plugins qui feront ça sans aucun souci. Donc c'est peut-être pas un effet qui va être amené à disparaître. Alors que les choses très spécifiques, elles vont être assez compliquées à mettre en œuvre. Voilà. Je vous ai un peu parlé de tout ça. Je sais pas exactement ce qui va arriver derrière. Et encore une fois, quand on est dans la logique de production, c'est très compliqué. On fait beaucoup de va-et-vient. Je sais que au Gramme, en tout cas, on fait énormément de va-et-vient avec Yann, en tout cas pour Faust. Moi, j'ai malheureusement toujours pas le temps de m'y mettre. Honte à moi. Donc, j'utilise ce que Yann a bien voulu nous fournir. C'est-à-dire les objets qui fonctionnent déjà dans les librairies de Faust. Et donc à mesure que ça avance, j'utilise de plus en plus d'objets comme ça qui sont ouverts, comme système de crossfade, des simples masters, des systèmes de gain, qui sont très pratiques quand on programme en Max. Et ensuite, une autre solution, et j'y crois vachement, c'est d'utiliser des objets qui sont open source. C'est-à-dire que j'essaie, quand j'utilise une librairie Max, d'utiliser que des choses dont on trouve les sources en C, dans un autre langage, mais quelque chose qui n'est pas propriétaire. C'est presque un devoir, je dirais. Et quand j'ai pas le choix, je le fais. Ça nous évitera, j'espère, si on a ces sources, même dans 20 ans, en C++, je pense qu'on sera encore capable de les lire, enfin j'espère. J'ai pas assez de connaissances là-dedans, mais je pense que oui. Alors qu'un objet verrouillé qui est payant et qu'on. Là, c'est presque certain qu'il est mort dans 5 ans. Enfin, à moins que la personne ait fait le portage, mais. C'est pour ça que j'utilise énormément de choses comme ça. Les mungers sont des mungers qu'on trouve en C++. Les reverbs, même si elles ne sont pas toujours terribles, les reverbs qu'on utilise sont des reverbs d'effet, qui ne sont pas des reverbs pour donner de la cohérence. Donc je ne cherche pas du tout à avoir une belle reverb, je cherche à avoir une reverb qui fait 20 secondes. Donc ça, pour le coup, c'est rare d'en avoir une reverb naturelle qui fasse 20 secondes et qui en plus soit belle. Ça fait souvent une purée. Donc là, on n'est pas trop regardant sur les algorithmes. Donc autant utiliser une gigaverbe qui ne sonne pas nécessairement bien, ou une freeverb qui ne sont pas les meilleurs algorithmes du monde. Donc voilà, c'est aussi je pense que c'est aussi de faire la part des choses, utiliser des choses qui soient lisibles, qui soient dans le domaine public, enfin qui soient en tout cas open source, ça nous permettra aussi de se rendre lisible dans le futur. Maintenant, je dis ça, on utilise Max. C'était vrai qu'on. Enfin, ça reste une boîte propriétaire et le jour où elle coulera, on sera mal. Très bien.
C'est difficile de porter entre Max et Pili.
En Max 5, c'est pas évident.
Le langage, le format textuel n'est pas du tout le même.
D'ailleurs, on peut aussi programmer en texte.
Ah oui, bah oui.
Il faut apprendre
le nouveau code, le nouveau langage. Mais il y avait une chose très simple dans Max 4 qui permettait de faire save as text, qui n'existe plus en Max 5, que je trouvais très.
En Max 5, c'est
toujours du texte.
Ah oui, c'est qu'il n'y a plus de format binaire en fait. Et c'est tout du.
C'est du texte.
Hein. C'est tout du.
Et c'est très différent comme.
Ah oui, c'est pas beaucoup plus lisible.
C'est plutôt moins lisible.
C'est un peu plus structuré. Ouais.
Bon, après, je sais pas si les langages de programmation, vous en savez peut-être plus que moi, mais j'ai l'impression que c'est un peu la guerre sur quel format on va utiliser. C'est-à-dire entre le Java, le C, le il y a beaucoup plus de trucs dans Max maintenant qui sont Max 5, tout passe en Java. Et bon, il y a les formats d'enregistrement sont maintenant JSON. Moi, ce qui m'a posé des problèmes de compatibilité avec les formats XML, par exemple, c'est très pénible, ça. C'est très très pénible d'être tributaire de ça. Donc j'ai vraiment l'impression de passer mon temps à essayer d'éviter les ennuis quand on programme plutôt que de vraiment avancer. J'ai pas l'impression de demander au compositeur de patienter avant que je trouve une solution technique avant de commencer vraiment à programmer de la musique, ce qui est particulièrement ennuyeux. Mais ça c'est lié au soft et je pense que même avec des descripteurs très avancés on arrivera peut-être pas, on est encore une fois tributaire de la station dans laquelle on travaille. Donc demain, je change de Macintosh, j'aurai aussi à régler des problèmes de Macintosh, je changerai, je passerai sur un PC, ce sera pareil. Bon, et je crois que j'ai fait un peu le tour des choses que je voulais présenter, donc c'est extrêmement sommaire, mais... Ah oui. Merci.
Est-ce qu'il y a des questions ?
S'il y a des questions...
Non, c'est juste une remarque. D'une part, je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir ce. Même moi, je découvre des choses alors que mes voisins de bureau, parce que je ne suis pas le travail de Max au quotidien, donc je trouve ça très intéressant, au contraire, l'aspect concret du vécu. Quoi. Et je me disais simplement, en regardant ton schéma, où on voyait. Explicité sous forme de courbe d'enveloppe, en quelque sorte, l'effet. Et ça, c'est peut-être une piste aussi intéressante de décrire, de rajouter de l'information sous forme comme ça d'images qui pourraient être faites plus ou moins automatiquement, enfin, de points remarquables quand il y a des choses où on passe des thresholds, etc. qui pourra servir aussi à documenter un peu les effets, quoi.
Alors, comment est-ce que tu imagines la partie automatique? Parce que du coup, quand on programme en Max, on passe son temps à cacher ce qui est inutile. Mmh. On ne garde que la partie graphique, contrôle ou parfois des choses un peu jolies, mais du coup faire des photos, ça renseigne pas nécessairement. Faire des photos du contenu, du cœur du patch, c'est pas beaucoup mieux parce que tu as souvent les petites librairies qui inventent.
Non, mais là c'était le dessin que tu as fait d'une certaine manière, tu as mis en correspondance l'entrée et la sortie audio.
Ah oui.
Voilà. À un moment remarquable, c'est-à-dire au moment où. Où tu franchis un seuil. Donc c'était juste cette idée-là me paraît intéressante. Quoi. Je ne sais pas comment on peut la faire automatiquement ou quoi, mais c'est une autre façon de documenter les choses, quoi, en explicitant la relation entre les signaux d'entrée et les signaux de sortie d'une manière graphique, quoi, d'une certaine manière.
Mais je sais que je renseigne tout maintenant comme ça. Parce que depuis
quand on regarde les diagrammes, les circuits intégrés, les circuits électroniques, c'est aussi ça que beaucoup donnent. On voit les bus, etc. Et puis on explique par des flèches, machin, les relations qui se passent entre les choses.
Quoi. Je suis convaincu que c'est ça sera lisible encore pendant 10 ans. Oui. Ça, c'est quelque chose que toute l'électronique ne cessera pas d'exister, mais on saura le lire, comme pour Faust les mathématiques. Si on utilise ces outils-là, on sera certainement... encore capable de le comprendre. Maintenant, est-ce qu'on sera capable de le remettre en œuvre? Serge, vous en parlerez mieux que moi.
Ça, c'est juste une toute petite partie du problème, parce que tu as soulevé au moins 3 autres problèmes qui rentrent pas là-dedans. Sauvegarder un module d'effet en le décrivant de cette façon-là, on va pouvoir faire dans le cadre de tout ça. Il y a d'autres choses bien plus difficiles à évoquer. Les choses assez asynchrones, par exemple le patch de Olivier, on fait bang et après on ne sait pas ce qui se passe la notion d'intention, quand tu comprends la poétique du conducteur, c'est ses intentions, comment les préserver, je pense que c'est ça. La troisième chose, c'est on va commencer par ça, par la pression de la production, c'est le temps pour faire cette documentation là, donc ça il faut trouver d'autres solutions pour voir. Ça, c'est 3 choses qu'on ne pourra pas...
Oui, tout à fait.
Moi, il me semble qu'il y a une chose qui est assez intéressante là-dedans, c'est-à-dire que, en fait, ça va au-delà de la simple documentation de cette problématique-là qui est forcément présente, puisqu'il va falloir, en gros, faire fonctionner les choses, mais on est entre... me semble-t-il, entre la documentation et les partitions. D'ailleurs, plusieurs fois, tu parles de partitions électroniques. Et par exemple, décrire, ce que proposait Yann, décrire ce que, graphiquement les entrées et puis les sorties, c'est une manière de notation qui se rapproche peut-être plus de la partition, effectivement, que de... Alors, l'autre question que je me pose aussi, c'est par rapport à ça, c'est où ? Puisque là, typiquement, maintenant, il y a quand même... en gros, une écriture à deux mains. Il y a le compositeur qui fait sa partition, et puis il y a une autre partie de la partition, en quelque sorte, qui échappe complètement. Alors, moi, la question que je me pose un peu, c'est par exemple Martin Matalon, comment il prend en compte cette dimension-là dans sa partition ?
Par habitude. Tu as des générations de compositeurs de 50aine d'années qui ont beaucoup travaillé l'électronique, et qui savent exactement ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec une idée poétique, ils disent « je veux ça, un tel me l'a déjà fait là-dedans, regarde », tu fais « ah oui, ok, j'ai compris ». Et maintenant, tu as les jeunes qui ont un niveau de Max qui est pas loin d'une autre, mais qui n'ont pas une grande habitude du live et de la documentation. Du coup, ils vont arriver avec leur patch et te mettre ça tout cuit dans les mains et te dire « voilà, ça doit marcher ». Et alors là, on a un autre problème, c'est-à-dire qu'on va nous-mêmes, je pense que le métier de réalisateur de RIM va disparaître. Non, j'exagère, mais parce que dans les conservatoires, on apprend ça. Alors certains ne sont pas du tout habitués à l'électronique, et d'autres le seront tellement bien qu'ils vont faire leur truc eux-mêmes. Et cette question continuera d'exister parce que eux, du coup, ils sont d'une préoccupation simplement d'écriture. Ils prennent même pas en considération l'ingénierie du son ou le micro qu'on va utiliser.
Mais justement, c'est la question, c'est quand tu dis ils le prennent en charge eux-mêmes, la question, c'est quelle forme ça prend concrètement. C'est-à-dire, pour les musiciens, ils ont une partition, j'imagine, le papier standard. Ou est-ce qu'il y a dans l'esprit du compositeur, et surtout concrètement, physiquement, un document qui soit la partition de l'ensemble de l'œuvre? Puisque là, en quelque sorte, c'est morcelé complètement. D'un côté, il y a la partition pour le musicien, et puis après, le reste, on ne sait pas trop où ça se trouve.
Mais il y a toujours, je ne connais pas un seul compositeur qui ne m'ait pas fait un dessin ou un schéma de la pièce avec tous les mouvements. Mais il n'est pas aussi précis que ce qu'il a dans sa partition. C'est-à-dire qu'il a une connaissance globale de l'œuvre. Par exemple, Martin va te dire, le premier truc qu'il a fait, c'est qu'il m'a dit, voilà, l'œuvre, il y a 5 sections, il y a 3 éclats, et il y a 6 sections, il y a 3 éclats et 3 moments plus calmes, avec un finish énorme. Voilà. Et donc il m'a fait les sections, il me les a nommées, et il m'a dit, à l'intérieur de ça, j'ai découpé ça en tel effet, enfin telle ambiance, tel état pour un instrument, tel état pour un instrument, il est capable de faire ça. Donc il a, si tu veux, une vision globale des segments, il a quelques sous-sections, mais les sous-divisions, les 40 coups de pédale qu'il y a à l'intérieur, c'est nous qui les inventons, un pour des nécessités, parce que c'est souvent d'ailleurs pour des raisons techniques, c'est-à-dire il faut qu'on puisse enchaîner ça avec ça, avec ça, donc on met un coup de pédale à cet endroit. Il n'y a aucune raison musicale. Les raisons musicales, c'est souvent eux qui les donnent. Et c'est concrètement comment c'est fait, c'est souvent une feuille de papier en studio qui est dessinée, ou un fichier Excel pour les plus organisés avec... alors ça c'est super, parce que du coup tu le joins au document, tu joins souvent... moi maintenant c'est ce que je fais, c'est que je le garde. Je fais des photocopies des partitions, parce qu'on imprime souvent les partitions en cercle, en rouge, en violet, en couleur, on met nos annotations. Et c'est eux qui font ça, qui te donnent les trucs. Et nous, on dit, attention, de là à là, il va me falloir un coup de pédale pour pouvoir enchaîner ça. Mais lui, il n'a pas idée de ce genre de choses-là. Et d'ailleurs, quand une fois sorti du studio, il s'en fout. C'est vraiment... pour ça que je parlais de niveau de documentation. Il y a la documentation pour les musiciens, la partition qui sera lisible encore pendant des siècles, j'espère. La documentation, enfin voilà, il y a tout. Il faut, c'est comme une espèce d'éventail avec des degrés de lecture dans lequel on est.
Il y a le sens qu'il y a, quand tu évoquais le déballage dans les cubistes, il me semble que là on a un gisement d'informations un peu duales de la représentation du patch sous quelque forme que ce soit, et qu'on n'utilise pas du tout en fait. Pour l'instant, enfin, j'ai l'impression que peut-être il y a des gens qui ont fait ça, mais on pourrait aussi à ce niveau-là
faire
de la synthèse, en tout cas, représenter les choses peut-être.
D'une certaine manière, les cubistes sont devenus une forme de partition.
Oui, ah, oui, oui. Voilà.
C'est sûr que Max a été poussé dans un domaine où il n'était pas forcément conçu pour au départ, quoi.
Et c'est très étrange parce qu'on a plus... Enfin, moi, maintenant, je prends l'habitude d'écrire avec des fiolistes, avec des grandes listes, et c'est pour moi 10 fois plus confortable. Mais je sais que pour le rime qui passera derrière moi, ça sera, s'il ne comprend pas ma logique, il risque de perdre beaucoup de temps. Et au début, je préférais les choses graphiques, puis maintenant, plus du tout. Je commence à virer tout ça pour aller à l'essentiel. Parce qu'on crée une... Maintenant, les œuvres, en fait, on est presque dans une logique où on va nous dire... on a un schéma, on pose nos objets, on les connaît tous par cœur. C'est rare de trouver une nouvelle idée. Moi, je suis souvent en train de coder, d'écrire. Enfin, coder, c'est pas du code, mais c'est une écriture dans l'environnement qu'on aura fait. Et c'est cet environnement-là qu'on doit... Comme je disais, les scènes immuscibles, la tête à toto, ou les petites variables qui vont bien pour pouvoir réinitialiser son processus et reprendre, ça, c'est des choses qui sont vraiment spécifiques à un patch. Dans le patch de Martin, pour donner un simple exemple, là, par exemple, j'ai mis une espèce de truc sur les mangers qui s'appelle Enable and Disable Processes, qui me permet de lier cet effet à une cue list ou pas du tout. Lui dire rends-toi visible par ça, donc je le rends soit pas aléatoire, ou soit je lance un processus de 6 minutes avec ça, soit je lui demande de chercher des états à chaque cue à chaque fois. Donc Donc, mais ça, ça, par exemple, je ne l'ai pas documenté. Et ça, c'est une erreur. La personne qui passe derrière moi ne sait pas du tout ce que ça fait. À moins qu'il ouvre le patch, qu'il suive tous les fils pour comprendre. Et ça, c'est bon. Ça, c'est le plus mauvais moment à passer. Ça ressemble assez vite à ça en fait. Alors,
encore ça, c'est ça.
Et encore là, c'est qu'il y a.
C'est visible.
C'est visible. Voilà, s'il n'y a plus de.
Non, on va donner la parole à Alain.